Chapitre 15. La puissance de l'entendement, ses propriétés. Que s'il appartient à la nature de la pensée de former des idées vraies, comme on l'a montré dans la première partie, il faut ici demander ce que nous entendons par faculté et pouvoir de l'entendement. Or, puisque la principale partie de notre méthode est de bien comprendre les forces de l'entendement et sa nature, nous sommes nécessairement obligés, par ce que j'ai dit dans cette seconde partie de la méthode, de déduire tout cela de la définition même de la pensée et de l'entendement. Mais jusqu'ici, nous n'avons eu aucune règle pour trouver les définitions. Et puisque nous ne pouvons exposer ces règles que si nous connaissons la nature, c'est-à-dire la définition de l'entendement et son pouvoir, il suit de là que la définition de l'intelligence doit être claire par elle-même, ou que nous ne pouvons rien comprendre. Cependant, elle n'est pas absolument claire par elle-même. Mais de ce que ses propriétés, comme tout ce que nous tenons de l'entendement, ne peuvent être connues clairement et distinctement que si l'on en connaît la nature, la définition de l'entendement sera intelligible par elle-même si nous faisons attention à ses propriétés que nous connaissons clairement et distinctement. Énumérons donc ici les propriétés de l'entendement, examinons-les et commençons à traiter de nos instruments naturels. Les propriétés de l'entendement que j'ai principalement remarquées et que je comprends clairement sont les suivantes. Premièrement, il enveloppe la certitude, c'est-à-dire qu'il sait que les choses sont formellement telles qu'elles sont objectivement en lui-même. Deuxièmement, il perçoit certaines choses, c'est-à-dire qu'il forme certaines idées absolument et d'autres en les tirant d'idées antérieures. Ainsi, il forme l'idée de la quantité d'une manière absolue, indépendamment de toute autre pensée. Mais il ne forme les idées de mouvement qu'en considérant l'idée de quantité. Troisièmement, celle qu'il forme absolument exprime l'infinité. Celles qu'il tire d'autres idées sont déterminées. Ainsi, l'idée de quantité, si elle est perçue dans une cause déterminée, détermine la quantité. Comme lorsqu'on perçoit un corps formé par le mouvement d'un plan, ou un plan par le mouvement d'une ligne, ou enfin une ligne par le mouvement d'un point. Toute perception qui ne serve pas à comprendre, mais à déterminer la quantité. Ce qui le prouve, c'est que nous les concevons comme formés en quelque sorte par le mouvement. Et cependant, le mouvement n'est perçu que lorsqu'on a perçu la quantité. Et nous pouvons même continuer le mouvement à l'infini pour former une ligne infinie, ce que nous ne pourrions faire si nous n'avions l'idée d'une quantité infinie. Quatrièmement, il forme les idées positives avant les idées négatives. Cinquièmement, il perçoit les choses, non pas tant sous la condition de la durée que sous un certain caractère d'éternité et en nombre infini. Ou plutôt, en percevant les choses, il ne considère ni le nombre ni la durée, au lieu que, quand il imagine, il les perçoit dans un nombre déterminé, dans une durée et avec une quantité déterminée. Sixièmement, les idées que nous formons claires et distinctes semblent résulter de la seule nécessité de notre nature, de telle sorte qu'elles semblent dépendre de notre seul pouvoir. C'est le contraire pour les idées confuses, car elles sont formées souvent malgré nous. Septièmement, l'esprit peut déterminer de plusieurs manières les idées que l'entendement tire d'autres idées. Comme par exemple, pour déterminer le plan d'une ellipse, il suppose une pointe adhérente à une corde qui se meut autour de deux centres, ou bien il conçoit une infinité de points toujours dans le même rapport et dans un rapport déterminé à une ligne droite donnée, ou un cône coupé par un plan oblique, de telle sorte que l'angle d'inclinaison soit plus grand que l'angle au sommet du cône. Ou enfin, il s'y prend d'une infinité d'autres manières. Huitièmement, plus les idées expriment de perfection dans leur objet, plus elles sont parfaites. Car nous n'admirons pas autant l'architecte qui a tracé le plan d'une petite chapelle que celui qui a conçu un temple magnifique. Je n'insiste pas sur les autres choses que l'on rapporte à la pensée, comme l'amour, la joie, etc., car elles ne font rien à notre sujet présent et ne peuvent même être conçues si l'entendement ne l'a été déjà. Car, ôter la perception, tout le reste n'est plus. Les idées fausses et les idées fictives n'ont rien de positif, comme nous l'avons amplement montré, qui les fassent nommer fausses ou fictives. Si elles sont considérées comme telles, c'est seulement par le défaut de connaissances qui s'y rencontrent. Ainsi, les idées fausses et fictives, en tant que telles, ne peuvent rien nous enseigner de l'essence de la pensée, et c'est aux propriétés positives, précédemment énumérées, qu'il faut la demander. C'est-à-dire qu'il faut déterminer un principe commun d'où résultent nécessairement ces propriétés, de sorte qu'étant donné ce principe, elles suivent nécessairement et qu'elles soient supprimées si on le supprime. Fin du traité. La suite manque.